Donc, la question la plus importante à se poser est la suivante. Comment un commerce en ligne peut-il augmenter ses ventes, son trafic et son taux de conversion? Eh bien, qui dit question dit également réponse. À chaque mardi, vous aurez donc la chance d'entendre des experts d'un peu partout du milieu francophone. Abonnez-vous, prenez des notes et soyez attentifs. Bienvenue à tous au podcast Commerce Élite.
Donc, on est de retour sur le podcast Commerce Élite en mode discussion et on a la chance aujourd'hui de discuter avec Noémie Cousineau, directrice marketing et communication chez Croisière AML, le leader canadien dans la catégorie croisière excursion. Avec plus de 50 ans d'existence, l'entreprise continue d'être un chef de file avec ses 25 navires qui parcourent l'entièreté du Québec. Et Noémie est en charge de promouvoir les belles activités de l'entreprise. Noémie Cousineau, merci beaucoup d'être sur le podcast Commerce Élite aujourd'hui.
Merci de m'avoir invité, c'est super gentil.
Et Noémie, on va parler en profondeur aujourd'hui d'un sujet qui est assez intéressant. C'est la première fois qu'on va en parler sur le podcast, celui du marketing dans l'industrie touristique, parce que comparativement à beaucoup d'autres catégories, vous devez aller cibler des gens que vous connaissez peut-être un peu moins parce qu'ils vont vivre dans des pays différents, dans des provinces différentes. Donc, ça va être un sujet assez fascinant. Mais avant d'en parler, est-ce que ce serait possible pour toi, pour les gens qui ne connaîtraient pas l'entreprise, d'expliquer en détail ce qu'est Croisière AML?
Croisière AML, c'est une entreprise, ça fait plus de 50 ans maintenant que c'est en opération. Donc, c'est une entreprise familiale. Le siège social est basé à Québec. Tu sais, tu le mentionnais un peu tantôt, on a plusieurs bateaux. On en a un à Montréal, un à Québec. On a plusieurs bateaux aussi à Tadoussac, dans la région de Charlevoix aussi, pour les fameuses croisières aux baleines. Un de nos produits les plus populaires. On a aussi un partenariat avec une entreprise qui s'appelle Croisière La Chance. Donc, eux, c'est plus dans le coin de la région de Chaudière-Appalaches. Ils ont un bateau qui font plusieurs excursions, entre autres, qui vont amener les passagers à Grosse-Île pour faire une visite en compagnie de Parc Canada. Donc, on a plusieurs activités, souper croisière, brunch croisière, croisière aux baleines, je l'ai nommé, dans les différentes régions du Québec. Puis, on est assez diversifié. On est autant local qu'international en termes de clientèle. Donc, beaucoup de choses à faire chez Croisière AML.
J'imagine beaucoup de choses à planifier également au niveau marketing. Et bon, comme je l'ai mentionné un petit peu plus tôt, Noémie, l'industrie touristique en général a ses particularités, surtout quand on parle de marketing. Plusieurs points qui me viennent en tête, celui de la saisonnalité, c'est-à-dire que vos initiatives vont changer, vont varier selon l'hiver, selon l'été. Également, on est dépendant de la météo beaucoup quand il y a des activités. On va vendre à des gens qui peuvent connaître l'entreprise, mais des fois, il y a des gens qui vont simplement venir visiter certaines régions partout au Québec et on va devoir les séduire avec notre offre de service. Donc, il y a plusieurs points assez importants. Peut-être que tu pourrais nous ramener à ton arrivée dans l'organisation mai 2021, si je me trompe pas, et nous dire comment tu t'as fait pour bien apprivoiser toute cette catégorie, parce que tu viens d'un environnement totalement différent, là.
Ouais, j'ai un background en marketing, communication, mais un petit peu plus corporatif. J'étais dans une grosse organisation avec beaucoup, beaucoup d'employés et un gros chiffre d'affaires. Puis là, je tombe en mai 2021, justement, dans une entreprise qui est très bien implantée dans son milieu. Je dois l'admettre, mais qui est beaucoup plus petite en termes de nombre d'employés que j'ai connu avant. Donc déjà, là, il y avait cet apprentissage-là. Puis l'industrie touristique, puis je ne sais pas si c'est juste ma perception, mais j'ai vraiment l'impression que c'est un domaine à part entière. Justement, tu disais la saisonnalité qui est vraiment intense, la météo qui influence, le contexte géopolitique aussi qui peut avoir une influence sur les voyageurs.
Bien sûr.
Puis là, je ne veux pas revenir à ça, je sais qu'on en a beaucoup parlé, mais quand je suis arrivée en 2021, c'était encore la pandémie. Puis, on sait que les restaurants, on a aussi des bateaux-restaurants. Et les entreprises touristiques ont été, parmi les entreprises, qui ont été les plus impactées par cet événement-là. Donc, fallait trouver des moyens de faire avec ce qui se passait parce que nous, ça faisait... on était rendu à 49 ans d'existence, je crois, environ, ou bientôt 50. Et puis... on allait continuer d'exister, puis c'était pas la première crise non plus à laquelle on passait au travers. Fait que les dirigeants, puis les gens qui travaillaient là étaient très serrés pour passer à travers la crise, mais il fallait trouver des solutions. Puis on était vraiment dans ce mode-là à ce moment-là, très agile, parce que ça changeait à chaque, je dirais pas seconde, là, j'exagère, mais ça changeait à chaque semaine les réglementations. Là.
Non, j'imagine que ça devait être assez difficile à suivre tout ça. Mm-hmm. Et bon, les choses changent. Il y a une dynamique un peu spéciale qui s'installe avec tout le la structure qui se déroule au niveau mondial, au niveau de la pandémie. Comment tu as été capable de bien, par la suite, bâtir ton diagnostic, établir ton plan marketing? Par où tu commences? Est-ce qu'on a une grosse partie de notre marketing qui se faisait peut-être dans un endroit qui est plus traditionnel? Est-ce que tout était déjà sur le web? Je serais curieux que tu nous expliques un peu le diagnostic que tu fais à l'époque. Et par la suite, on pourra parler un petit peu des initiatives que vous avez mises en place pour promouvoir l'organisation.
Ouais. Ben, écoute, moi, je pense que j'ai été extrêmement chanceuse d'avoir été accueillie par le vice-président vente marketing qui était déjà dans l'organisation depuis plusieurs années. Il avait fait un travail incroyable dans l'année qui précédait mon arrivée parce que lui, il avait fait comme un an environ en crise pandémique, plus dans les années 2020, juste dans l'année 2020. Oh. Puis, je dirais que la stratégie était comme déjà un petit peu enclenchée. Puis, il y a plusieurs volets à la stratégie, mais la principale, c'est de prendre notre cible qui est les clients internationaux puis de la recentrer sur une clientèle un petit peu plus locale.
Ben oui, parce que beaucoup de gens, pendant la COVID, voyageaient partout, mais à l'intérieur même du Québec, il y avait cette dynamique également d'économie locale qui s'installait, là.
C'est ça. Fait qu'il y avait, tu sais, oui, les gens à l'international ne voyageaient plus, mais c'était l'inverse. Tu sais, l'inverse était aussi vrai, là. Donc, les gens restaient sur place, restaient chez eux, avaient envie de découvrir la région. Tu sais, on en avait entendu parler aux nouvelles. La Gaspésie, on n'a pas de croisière en Gaspésie, mais la Gaspésie puis la Côte-Nord ont été très, très, très populaires dans ces années-là.
Bien sûr.
Côte-Nord, croisière aux baleines, à Tadoussac. Donc, on a pu aussi bénéficier de cet engouement-là. On a été chanceux, on va dire, dans notre malchance. Par contre, tous les efforts étaient rediriger vers cibler une clientèle locale. Puis, ça a permis aussi de nous faire reconnaître, tu sais, connaître à nouveau Croisière Amel, puis, tu sais, de gagner aussi un petit peu de notoriété à l'intérieur même de la province parce qu'on était beaucoup ciblé international. Puis, tu sais, je pense que ça a fait du bien aussi. Pour ça, les gens nous ont redécouvert.
Parlons un petit peu de comment vous vous y prenez pour rejoindre davantage le client local versus comment vous vous y prenez pour rejoindre davantage le touriste.
Il y a plusieurs, c'est sûr qu'il y a plusieurs stratégies. Mettons, la plus simple, c'est les audiences. Tu sais, quand on parle du numérique, on peut cibler nos audiences précisément avec ça. Mais il y a un point qui est intéressant, je pense, puis dans tout ce qui est conférence marketing, on dirait qu'on en parle moins parce qu'on est très axé sur le numérique, mais nous, on a des points de vente physiques. Puis les touristes se promènent, regardent, marchent. Donc, il faut qu'ils soient attirés par quelque chose qui est physique, qui est là. Fait qu'on a des billetteries avec de l'affichage, puis des signes, puis c'est rouge, puis ça attire l'œil. Fait qu'on a aussi ça qu'il faut prendre en considération au-delà des campagnes numériques. Donc ça, c'est quand même assez important de pouvoir capturer le client sur place. Fait que ça, c'est un défi quand même. Tu sais, on le sait, il y a plein de publicités partout à gauche à droite. Fait qu'il faut être capable de se démarquer aussi par là. Puis, ce qui est intéressant pour les touristes qui sont plus à l'international, eux vont beaucoup se documenter. Quand ils vont faire des recherches sur quoi faire dans la région ou quelle activité faire. Donc, il faut être en mesure d'être bien positionné là où les clients vont chercher l'information. On a toutes sortes de partenariats, des publicités aussi qui sont bien placées dans les endroits où les touristes vont chercher quoi faire.
Donc, en gros, vous avez une stratégie numérique, comme tu l'as mentionné. Vous allez faire des campagnes sur Facebook, sur Google pour cibler des gens locaux, peut-être cibler également des touristes qui sont en déplacement. Mais tu parles également peut-être d'une stratégie plus traditionnelle. On parle quoi de pamphlets dans des endroits un petit peu plus touristiques où est-ce qu'il va y avoir des recherches? Des hôtels, littéralement, une stratégie avec des concierges.
Oui, c'est ça. On peut apparaître sur des cartes aussi, des fois. Les régions, par exemple, Montréal, il y a l'organisme Tourisme Montréal.
Bien sûr.
Qui, eux vont développer un guide touristique spécifiquement pour promouvoir la région Montréal, puis c'est sûr qu'on va être positionné là. Fait que c'est tout ce que les gens peuvent aller consulter pour avoir plus d'informations sur quoi faire. Ben, nous, on veut être là.
Intéressant. Puis dis-moi, est-ce que vous arrivez à quantifier un peu les résultats de un versus l'autre? Est-ce que travailler avec les différentes instances touristiques vous aide davantage à aller générer de la clientèle que le numérique? Est-ce que vous avez déjà fait un peu cette analyse-là de votre côté?
Je pense que c'est relatif l'investissement qu'on va faire sur les différentes plateformes. Fait que, tu sais, c'est sûr que, mettons, si tous les canaux sont pertinents, là, des fois, on va aller investir plus sur un certain canal pour X, Y, Z, tu sais, les retombées vont être plus élevées. Mais sinon, nous, notre stratégie vraiment, là, c'est d'être 360. C'est très important. Puis, d'être visible un peu partout dans le funnel, c'est ce qui fait notre force, puis c'est ce qui fait en sorte qu'on se démarque, puis qu'on est présent.
Ouais, j'imagine qu'on n'a pas le choix. On va aller chercher le touriste, peu importe où est-ce qu'il nous recherche, ouais. Que ce soit en ligne, que ce soit dans des instances touristiques, on le dit un peu, c'est assez important. Un autre point, tu l'as mentionné brièvement, vous avez différents mécanismes pour aller générer une transaction. On peut acheter directement sur votre site web, on peut acheter au téléphone avec des agents qui vont nous répondre et on peut également aller vous visiter. Si tu avais à nous donner peut-être une analyse un peu de tout ça, est-ce qu'en date d'aujourd'hui, il y a une ligne, il y a un mécanisme qui est drastiquement plus performant que l'autre et où c'est très dispersé entre les trois lignes d'affaires. Je serais curieux de t'entendre un peu ici pour voir
les ventes en ligne
par beaucoup.
Ouais. Ouais, c'est vraiment. Puis même, tu sais, depuis la pandémie, c'est très marqué. Il y a les habitudes de vie. Il y a eu une refonte du site web également qui a extrêmement aidé. On s'est concentré sur faire en sorte que le client puisse bien comprendre notre produit, bien le trouver, bien comprendre les disponibilités pour que son frais à l'achat soit le moins élevé possible. Puis c'est autant pour les ventes que donner une belle expérience au client dans le fond. Là. T'sais, on veut pas le faire chercher pendant 3 heures sur notre site web parce qu'il comprend pas où aller. C'est important pour lui, surtout c'est un touriste. Il est dans la région, il a pas le temps de gérer ça. Lui, il veut faire toutes ses activités, il veut avoir du plaisir dans le coin. Fait que, regarde, nous, on va te simplifier la vie le plus possible. Tu vas pouvoir faire ta transaction rapidement. Toutes les informations que tu vas avoir besoin, mais tu vas les trouver comme ça. Fait que ça a été vraiment très important pour nous. Puis je pense que ça a été bénéfique aussi pour les clients. Tu sais, qui appellent moins pour poser des questions, qui trouvent leur information par eux-mêmes. Puis c'est comme ça que les gens veulent s'informer aussi. Là, fait que...
Définitivement. Puis bon, ça, vous le voyez autant pour les clients locaux que les clients à l'international.
Ouais. Les clients à l'international, tu sais, comme je le disais tantôt, c'est pour certains types de produits, là, par exemple, ben, des croisières guidées. Ah, tu vois le gros bateau, tu te promènes dans le Vieux-Québec, tu vois un énorme bateau, le ML Louis-Joliette. Ah, tu te demandes c'est quoi? T'as le goût d'aller t'informer en billetterie, puis c'est comme t'as pas pensé à aller faire une croisière, mais là, ah, tu la vois, t'as le goût de le faire. Fait que c'est pour ça que ça nous prend aussi une équipe terrain.
Puis il y a un point qui est assez intéressant de mentionner, travailler peut-être avec des hôtels, tout ça. Il y a beaucoup de gens qui vont nous écouter aujourd'hui, des directeurs marketing de certaines organisations, des propriétaires peut-être de commerce en ligne également, qui vont s'adresser à une clientèle plus touristique. Comment s'installe votre dynamique avec d'autres organisations pour faire du marketing commun? Parce que j'imagine que les hôtels ont beaucoup à gagner de faire des partenariats avec vous. Vous avez beaucoup à gagner de faire des partenariats avec des hôtels. Et là, on parle d'une ligne de service spécifiquement. Mais est-ce qu'il y a des initiatives communes que vous allez faire avec beaucoup d'organisations qui parlent aux mêmes clients que vous? Est-ce que c'est des choses que vous mettez de l'avant qui ont été fonctionnelles dans le passé?
Ben, je vais donner un exemple bien précis, là, mais pendant la pandémie, il y a eu un programme qui s'appelait les passeports à trait, qui permettait aux clients de la province de Québec d'acheter, je pense que c'était 4 activités locales et d'obtenir 40% de rabais qui était remboursé par le ministère du Tourisme. Donc, à ce moment-là, là, on le faisait déjà avant, mais à ce moment-là, on a créé énormément de partenariats avec d'autres entreprises pour créer des espèces de packages qui allaient plaire aux potentiels clients et qui allaient nous démarquer dans le marché puis qui allaient être vraiment attirants puis qui allaient aussi faire sauver des sous aux gens du Québec. Donc, déjà, on le faisait avant. Ça s'est amplifié pendant la pandémie à cause du programme du ministère des passeports à trait. Puis, on a d'autres partenariats qui se poursuivent puis qui avaient déjà lieu avant, mais des hôtels, on a des hôtels... où on est très, très proche. On a d'autres types d'organisations avec lesquelles on peut faire des combos, par exemple, une visite à Grosse-Île, puis une visite au Miller's Zoo. C'est deux attractions fortes dans la région de Chaudière-Appalaches. Donc, on sait que quand les clients vont dans cette région-là, ils ont le goût de faire les deux activités. Fait qu'on va s'associer puis on va faire un package avantageux. Ça ressemble un peu à ça, les partenariats. Ouais.
Et parlons peut-être un petit peu de 2023 et par la suite, on regardera 2024. Quels ont été peut-être les apprentissages, les bons coups, les moins bons coups que vous avez fait au niveau marketing en 2023 que tu pourrais nous partager peut-être un peu des leçons qui pourraient aider notre audience?
Bonne question. Je pense que un de nos défis, c'est vraiment de continuer à gagner en prévisibilité sur les choses à livrer pour être capable de constamment jongler avec les changements qu'il peut y avoir. Nous, on fait notre chiffre d'affaires sur comme 5 mois. Là. C'est extrêmement rapide. Donc, il faut être agile. Il faut être capable de s'adapter rapidement au marché qui peut changer en une mauvaise météo. Là. On n'a pas le contrôle là-dessus.
Un mauvais été, puis ça change la donne aussi. Là.
Ben exactement. D'ailleurs, 2023, il y a eu quand même pas mal de pluie au Québec. Donc, il a fallu naviguer avec ça là, pour pas faire de mauvais jeu de mots. Mais il faut être structuré dans ce qu'on sait contrôler pour avoir le temps, justement, de pouvoir être agile en temps réel. Donc ça, c'est vraiment un apprentissage pour moi, pour l'équipe. Puis, je pense que ça va être assurément là, un de nos points forts dans les prochaines années si on réussit à atteindre ce niveau-là là, qu'on est en train de travailler.
Et pour 2024, quels sont vos plans? Est-ce que vous avez déjà quelque chose en tête de prévu, de faire différemment pour aller chercher un maximum de clients?
Je dirais pas qu'on est en transformation numérique, là. C'est un petit peu intense, mais au niveau, pas tant du processus client, mais plus à l'interne, pour être capable d'être plus efficace, puis aussi être capable de patauger avec la pénurie de main-d'œuvre qui est présente pour l'industrie touristique aussi. Donc, on essaie de prendre des petits éléments où est-ce qu'on peut intégrer de l'automatisation, par exemple, puis simplifier nos processus pour pouvoir faire plus avec moins.
Et à quel point la dynamique actuelle au niveau économique impacte un peu ce que vous voyez de votre côté? Est-ce que vous sentez que c'est peut-être plus difficile? Est-ce que ça n'a pas impacté encore l'organisation, la commercialisation de vos ventes? Comment ça se déroule un petit peu avec tout ce qui se déroule? Parce qu'on le voit, on l'entend, il y a beaucoup de commerçants en ce moment qui voient une diminution un petit peu de leur vente. Donc, je serais curieux de voir comment vous vous adaptez à travers tout ça.
Ben, je dirais que dans les derniers mois, tu sais, pendant l'été, ça s'est bien passé, mais je pense que ça ne se sentait pas encore tout à fait les impacts. Donc, il faut attendre parce que là, tu sais, nos bateaux sont plus en fonction. Fait que je pense qu'on va vraiment être capable d'avoir une bonne lecture durant la saison officielle 2024. J'ai bien hâte de voir, c'est sûr que c'est un défi, qu'il va falloir surveiller ça de près, mais comme je disais tantôt, on va être assez structuré, mais assez agile pour pouvoir y faire face comme on le fait depuis 50 ans chez Croisière AML.
Fantastique. Noémie Cousineau, si on veut en savoir un petit peu plus sur votre organisation, site web, meilleur endroit pour vous rejoindre?
Oui, pas de problème, croisièreaml.com, tous nos produits sont là. Si ça vous tente une petite croisière aux baleines, ben écoute, on vous attend.
On mettra un lien dans les notes de l'épisode. Noémie, merci beaucoup d'avoir pris du temps aujourd'hui avec nous. Conversation assez intéressante sur les mécanismes utilisés pour aller chercher les touristes ou également pour rappeler l'existence de notre organisation à nos clients locaux. Donc, je te remercie pour ça. Et pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Commercialité.